Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Ans après le mondial de football en Afrique du Sud, Code Source vous a raconté en juin le fiasco de Knysna. Ça nous a donné envie pour ces vacances de revenir sur des étés où les Bleus sont allés beaucoup plus loin dans la compétition. Aujourd'hui, le mondial 2006, celui du coup de tête de Zidane.
Pas ça, Zinedine. Non. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait.
C'était contre l'Italie en finale et c'était son dernier match. Récit de Christophe Bérard et Harold Marchetti du service des sports du Parisien. Harold Marchetti, Christophe Bérard, vous allez nous raconter ce mondial 2006 de l'équipe de France. Christophe Bérard d'abord. Pour le Parisien, ce mondial a été marqué par la mort de l'un de vos collègues, l'un des journalistes du service des sports du Parisien, Didier Romain, qui est mort pendant ce mondial.
Oui, Didier Romain qui était parti avec nous en Allemagne. On est parti à 7, on est rentré à 6 parce que Didier a eu une crise cardiaque juste avant le deuxième match de l'équipe de France contre la Corée du Sud à Leipzig. Il était en voiture, il a eu une crise cardiaque, il est tombé dans un coma dont il n'est jamais sorti et il est mort quelques mois plus tard. Au Parisien, quand on pense au mondial 2006, on pense toujours, encore aujourd'hui, à Didier.
Didier Romain avait 47 ans, c'était un ami.
C'était un ami, c'était un compagnon, un joyeux drill, un très bon journaliste, c'était un grand reporter.
On va donc raconter ensemble ce mondial 2006 pour l'équipe de France. Il y a un nouveau sélectionneur à la tête des Bleus, Raymond Domenech, depuis 2004. Sauf que quand il arrive, il y a beaucoup de joueurs qui veulent partir.
Et pas des moindres, puisqu'il va enregistrer les retraites internationales de Zinedine Zidane, de Lilian Thuram et en septembre 2004 de Claude Makélélé, c'est-à-dire trois cadres des Bleus.
Alors qu'est-ce qu'il fait ?
Eh bien, il va racler les fonds de tiroir. Je n'invente rien, c'est sa propre expression. Donc il va faire appel à des jeunes, inexpérimentés, et ça va prendre du temps.
Est-ce qu'il va essayer de convaincre Zidane de revenir ?
Le retour de Zidane en équipe de France est une obsession pour Raymond Domenech. Il va garder le contact avec le meneur de jeu. Ils vont échanger par téléphone à deux ou trois reprises au début de l'été 2005. Et donc Zidane lui dit « Je vais réfléchir, laisse-moi les vacances et on se recontacte à mon retour. »
Qu'est-ce qu'il lui dit après les vacances ?
Il lui dit « Ok, je reviens. L'équipe de France est dans la difficulté. C'est pour moi ce qu'il y a eu de plus beau et je ne peux pas la laisser au bord de la route comme ça. Donc je vais revenir avec Claude. » Claude, c'est Claude Makélélé.
Zidane qui se dit ému, impatient et heureux de retrouver le maillot bleu.
Et donc il annonce ça le 3 août 2005.
Absolument. Sur son site internet, il dit « L'équipe de France a été pour moi ce qu'il y avait de plus beau. Je n'ai pas fini d'écrire mon histoire avec cette sélection et donc je vais revenir pour qualifier l'équipe de France pour la Coupe du Monde 2006. »
Aujourd'hui, je suis content d'être ici et de me dire que dans 15 jours, je vais retrouver les copains et les bleus, quoi.
Christophe Bérard, Lilian Thuram va les imiter.
Oui, il lui a fallu un peu plus de temps parce que lui, vraiment, il n'avait pas du tout envie. Autant ça manquait à les Bleus manquaient à Zidane, Thuram avait tiré un trait. Mais finalement, son retour, c'est pas pour Raymond Domenech, c'est sur l'insistance de Zidane et Makélélé. Il va finir par leur dire « Ok les gars, je fais comme vous, je reviens ».
Zidane, Makélélé, Thuram, quels sont les autres visages de ce mondial pour les Bleus ?
Fabien Barthez, champion du monde en 98, William Gallas, Willy Sagnol, Eric Abidal, Franck Ribéry, le genou, puisqu'à l'époque il n'a que 23 ans, Florent Malouda, Thierry Henry bien sûr, et puis David Trezeguet.
Le Mondial 2006 se dispute en Allemagne du 9 juin au 9 juillet. Comment l'équipe de France entre dans la compétition ?
Mal. Franchement, les deux premiers matchs contre la Suisse à Stuttgart, puis contre la Corée du Sud à Leipzig, sont pas bons. Pour le premier match, c'est un 0-0 bien terne. Sincèrement, on se dit, mais cette équipe, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle ne montre rien, on ne voit pas où elle veut aller. Second match contre la Corée du Sud, qui est censée être une équipe assez faible, la France mène 1-0, et à 9 minutes de la fin, elle se fait égaliser.
Fabien Martins va être vigilant ! Et l'égalisation, elle est là !
On est à 2 matchs nuls en 2 matchs. Sincèrement, il y a un énorme brouillard autour de cette équipe. C'est pas beau, on ne sait pas où Raymond Domenech veut aller, on ne sait pas où cette équipe de France veut aller. On imagine surtout qu'elle va aller dans le mur.
Comment joue Zidane ?
Mal. Zidane, le champion du monde 98, celui qui avait emmené la France au sommet 6 ans plus tôt à l'Euro 2000, là, il est pas bon. Même le Parisien a dit « Ah, ce serait tellement bien si Zidane voulait redevenir le patron parce qu'il est là physiquement, mais il ne pèse pas sur le jeu. » Et pire, il est nerveux, il prend un carton jaune au premier match, un second au deuxième match, ça veut dire qu'il sera suspendu pour le troisième match contre le Togo. Les débuts de Zidane au Mondial 2006 sont mauvais.
Et dans la presse, on le soupçonne de s'entendre très mal avec l'entraîneur Raymond Domenech ?
C'est pas vraiment un soupçon, c'est avéré. Je ne veux pas parler de détestation, mais à minima, on peut parler de mépris mutuel. Domenech a rappelé Zidane parce qu'il était un peu obligé. Zidane, il n'a aucun respect tactique humain pour Raymond Domenech. Et lui non plus, un peu comme les autres quatre, il ne comprend pas trop les idées tactiques, le discours de son coach. Il l'accepte parce que c'est le coach, mais entre les deux, le courant ne va jamais passer.
Le troisième match de poule des Bleus, c'est contre le Togo à Cologne le 23 juin et c'est donc sans Zidane. Quel est l'enjeu pour les Bleus ?
C'est très simple, la France doit gagner par 2 buts d'écart au moins pour se qualifier pour la suite de la compétition. Sinon, elle est éliminée tout simplement. Donc en face, c'est le Togo. Clairement, le Togo, désolé pour eux, mais c'est vraiment une nation très faible sur l'échiquier. La France est largement favorite. Elle va faire service minimum. Elle va gagner 2-0, but de Vieira et de Thierry Henry. Elle est donc qualifiée, mais le brouillard dont on parlait sur les deux premiers matchs, il est toujours là. On ne sait pas ce que vaut cette équipe, on ne sait pas ce que veut cette équipe.
C'est un 2-0 qui ne convainc pas ?
Battre le Togo 2-0, sincèrement, on attend, c'est un minimum qu'on puisse attendre de cette équipe de France. Elle a juste fait son travail, elle n'a pas dominé, elle ne s'est pas rassurée. Ce genre de match, c'est aussi pour engranger de la confiance, elle n'en a engrangé aucune. Elle a pris les 3 points, elle s'est qualifiée. La France s'est contentée d'assurer le service minimum.
Zidane, lui, il vit cette qualification depuis le banc.
Oui, parce qu'il est suspendu et il fait clairement, ostensiblement la tête. Il en veut à tout le monde, il en veut à la presse qui le critique, mais au fond de lui, il s'en veut surtout à lui. Il n'est pas au niveau, il n'est pas sorti de sa retraite internationale pour offrir ce visage en Coupe du Monde, pour offrir ce niveau de jeu très faible. Il est en colère, mais surtout contre lui.
La France doit jouer l'Espagne en 8e de finale le 27 juin à Hanovre. Mais avant la rencontre, Harold Marchetti, la presse espagnole chambre Zinedine Zidane.
Elle dit que Zidane sera à la retraite à l'issue du match face à l'Espagne.
Pourquoi ?
Parce que Zidane a annoncé que la Coupe du Monde serait sa dernière compétition et qu'ensuite, il arrêterait le football.
Et donc ce 8e de finale, c'est un match à élimination directe.
C'est un match couperé, donc il y a un vainqueur, un battu. Si la France est battue, elle rentre à la maison et Zidane arrête.
Comment réagit Zidane sur le terrain ?
Zidane y réagit en champion, avec un immense orgueil. On n'arrive pas à un tel niveau sans avoir un ego surdimensionné. Et Zidane est donc très bon. Il est sobre, efficace, lucide et leader. Très important. Jusqu'à présent, on attendait qu'il devienne ce leader de jeu, ce leader de vestiaire, et là, c'est lui qui va diriger ses partenaires. Il est vraiment un capitaine.
Qui ouvre le score ?
L'Espagne. L'Espagne sur un pénalty de David Villa.
Attention, David Villa ! C'est à droite et c'est dedans !
Les Français sont piqués au vif et on a l'image d'un Franck Ribéry qui court dans tous les sens. Patrick Vieira le lance.
Pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y, mon petit !
Et puis derrière, on a tout cette image d'un gamin de 23 ans qui va se précipiter vers le banc de touche de l'équipe de France en décrivant l'avion avec ses bras pour communier avec ses partenaires. C'est véritablement quelqu'un qui a une fraîcheur. Tout le monde l'aime dans cette équipe.
Un partout à la mi-temps. Décrivez-nous la seconde période.
La seconde période est très équilibrée. Petit à petit, le physique des Bleus prend le dessus. L'Espagne commence à tirer sérieusement la langue. Mais le dénouement de ce match va intervenir très tard.
On en arrive à la 83e minute de ce match.
Avec une faute sur un Français, un coup franc, parfaitement tiré au second poteau par Zinedine Zidane. Et Patrick Vieira, du haut de 1m90, place sa tête.
Debout 1 pour les Bleus, à ce stade, la France est qualifiée pour l'écart.
Et l'Espagne KO debout. L'Espagne est clairement dans sa tête, a perdu le match. Et sur une dernière contre-attaque, je revois cette image, Sylvain Hiltord lance Zinedine Zidane, celui-ci se présente dans la surface de réparation. Il élimine très facilement d'un crochet Carlos Puyol.
El Magnifico, au bout, le but.
Et Zidane est marqué.
C'est le troisième but des Bleus.
La France est donc qualifiée pour ses quarts de finale du Mondial. Christophe Bérard, est-ce qu'il y a eu un déclic là dans ce match ?
Clairement, on ne les reconnaît pas. Ces Français si mauvais au premier tour, d'un coup, ils sont très bons contre les Espagnols. Et ce qu'on va apprendre plus tard, c'est qu'en fait, Raymond Domenech, rappelez-vous que Zidane et ses amis étaient pas des grands fans du sélectionneur, à un moment, on va dire, maintenant, on prend les choses en main. C'est nous qui décidons, grosso modo. Les cadres de l'équipe décident simplement, maintenant, on va prendre le pouvoir.
Bonsoir à tous.
En quart de finale, les Bleus affrontent le Brésil le 1er juillet à Francfort. Harold Marchetti, comment est-ce qu'ils abordent ce match ?
Avec énormément de confiance. En fait, ils sont libérés. La composition d'équipe est la même que face à l'Espagne. Ils ont confiance à leurs moyens. Leur mondial a vraiment commencé. Donc en face, c'est le Brésil, champion du monde en titre. Mais quel que soit l'adversaire, les Bleus s'en sortent de leur force.
Et au coup d'envoi, Zinedine Zidane est survolté.
C'est, de l'avis unanime, le plus grand match de la carrière de Zinedine Zidane chez les Bleus. On a l'impression qu'il jouait à la PlayStation avec ses adversaires.
Zidane à la lutte avec Kaka. Oh, quel festival. Festival technique.
Un jongle face à Kaka en première mi-temps, un crochet sur Ronaldinho, et il va même pousser l'audace.
Zidane par-dessus Ronaldo. Et allez,
à faire un lob au-dessus de Ronaldo. C'est quelque chose d'extraordinaire. Tous les gestes techniques de la gamme de Zinedine Zidane sont sublimés ce jour-là.
Christophe Bérard.
Il a eu une justesse technique avec le ballon, qu'on serait nous incapables de le faire avec les mains, il le fait avec les pieds. J'ai le souvenir ce jour-là, c'était un danseur étoile. Mais vraiment, je pèse ce mot, tout ce qu'il touche, tout ce qu'il essaye, il le réussit, à croire que le Brésil le transcende. C'est le cauchemar absolu du Brésil en 98 comme en 2006. Sincèrement, ce jour-là, c'est un danseur étoile.
Zidane qui va tirer un coup franc à la 57e minute du match.
Il le tire magnifiquement bien, une frappe chirurgicale au second poteau.
Zidane qui va tirer le coup franc.
Et là, il jaillit. Thierry Henry, esselé au second poteau, catapulte le ballon sous la transversale de Zidane d'un plat du pied. La France mène 1-0.
On est donc à l'heure de jeu. Il reste une demi-heure. Que se passe-t-il ?
Le Brésil ne trouvera jamais les solutions. Le Brésil va tenter, mais le ressort est cassé. Zidane continue à monopoliser le ballon. La défense française fait bonne garde. Et le temps s'égrène. L'équipe de France tient sa qualification pour les demi-finales.
La France affronte le Portugal en demi-finale le 5 juillet à Munich. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette rencontre ?
Que la France a été dominée. Le Portugal, c'est quand même Paris 1 à l'époque. Deco, Pauleta, bien connu au PSG. Figo, Maniche. Le Portugal va monopoliser le ballon, mais va faire preuve d'inefficacité. Et la France, en revanche, sera très, très réaliste.
C'est-à-dire ?
La France obtient un pénalty après une faute de Carvalho sur Henry. Zinedine Zidane exécute ce pénalty. Il marque, la France mène 1-0.
On est à la 33e minute de jeu. Le score n'évoluera plus. La France est qualifiée pour la finale du Mondial 2006. Finale qui va se disputer le 9 juillet au Stade Olympique de Berlin contre l'Italie.
Encore nos voisins italiens qu'on avait battus en 98, en 2000. Et là, on les retrouve. Mais cette génération-là italienne, elle est beaucoup plus forte que celle de 2000. Elle est emmenée par un grand entraîneur Marcello Lippi. Et puis alors, on peut aligner les noms. Il y a du talent partout sur le terrain, que ce soit dans les buts avec l'immense Gianluigi Buffon. Il y a Andrea Pirlo, il y a Francesco Totti, Fabio Cannavaro. Il y a des joueurs excellents. Et contrairement aux générations précédentes, elle a du talent offensif. Elle peut marquer n'importe quand. Elle sait jouer. C'est un immense danger pour les Bleus.
18e finale de la Coupe du Monde, c'est parti !
Comment commence cette finale de Coupe du Monde ?
Comme dans un rêve. Materazzi commet une faute sur Malouda et il y a un penalty qui est sifflé en faveur des Bleus.
Qui le tire ?
Zinedine Zidane, bien sûr. Et il va tenter une panenka. Une panenka, ce nom-là, est très connu des fans de foot. Pour les autres, on dira que c'est un geste technique très difficile qui porte le nom d'un joueur tchèque. Il s'agit en fait de tirer un penalty en faisant un lob. Donc il faut beaucoup d'audace parce que si le gardien de but ne bouge pas de sa ligne, ben forcément il arrête le ballon parce que le ballon n'a pas de puissance. C'est un défi entre le gardien et le tireur.
Quand ça rate,
on est grotesque.
C'est parti, la panenka ! Oui, elle est dedans !
Oh là là !
La panenka de Zinedine Zidane va taper la transversale de Buffon.
Quel incroyable !
retombée. À l'œil nu, on ne sait pas. Et en fait, on s'aperçoit qu'elle est retombée derrière la ligne. Et donc, il y a but. La France mène 1-0.
Christophe Bérard, une Panenka en finale d'un mondial, c'est rare ?
Ah, c'est pas rare, c'est inédit. Mais si Zidane a choisi de tenter ce geste, c'est pas par hasard, c'est parce qu'en face, dans les buts italiens, il y a Gigi Buffon. Et Gigi Buffon, c'est le meilleur gardien du monde. Et Buffon connaît par cœur le jeu de Zidane, qu'il a vu jouer avec la Juventus de Turin pendant que lui était à Parme. Il sait comment il tire. Et Zidane, justement, pour surprendre Buffon, s'est dit « je vais tenter quelque chose auquel il ne s'attend pas ». Et donc, je ne vais pas tirer à droite, je ne vais pas tirer à gauche, ni la lucarne, la rater. Non, je vais tenter quelque chose qu'il ne peut pas deviner. Et il tente ce geste qu'il réussit.
Harold Marchetti, quelques minutes plus tard, les Italiens réagissent.
Alors, ils n'ont pas eu temps de douter. Sur un corner très bien tiré par Pirlo, Materazzi s'élève plus haut que les défenseurs français.
Materazzi, il se rattrape.
Et catapulte le ballon d'une tête rageuse au fond des filets. L'Italie retrouve le moral et va dominer la fin de la première période. Ça va être un petit peu plus compliqué pour les Bleus qui vont souffrir, mais qui vont tenir le coup.
Un partout à la mi-temps, comment se passe la deuxième période ?
Les deux équipes vont un petit peu se regarder. Personne ne va se livrer totalement. Les Français vont se procurer quelques occasions par Ribéry, par Henry, mais rien de très marquant finalement.
Le score va en rester là. Un partout à l'issue du temps réglementaire. On joue donc une prolongation. Depuis 2 ans, il n'y a plus la règle du but en or. Comment se passe cette prolongation pour les Bleus ?
Elle se passe d'abord plutôt bien. L'équipe de France retrouve des jambes et Zidane place une tête magnifique sur un centre de Willy Sagnol. Dans la tribune de presse, on est prêt à se lever parce qu'on se dit ça y est, il va marquer un deuxième but. Et puis Gianluigi Buffon fait une parade extraordinaire.
Oh, c'est Zidane !
Oh, Zizou !
De la tête et la claquette de Buffon !
Oh, Zizou !
Buffon, il faut se rappeler, c'est un gardien qui a une très grande envergure. Il est très grand et en fait, c'est presque un arrêt de gardien de handball. Il va repousser ce ballon. En fait, tout le monde croit que Zidane a marqué, mais Buffon va arrêter.
La Zidane a failli marquer, les Bleus dominent cette prolongation.
Oui, ils ont pris l'ascendant psychologique et même un peu physique sur les Italiens. On sent que, porté par le calme, l'assurance de Zidane, la balance est en train de pencher du côté des Bleus. Ça sent bon.
108e minute de jeu, Harold Marchetti, vous, depuis la tribune de presse, vous voyez un Italien au sol.
On ne discerne même pas qui est l'Italien qui est au sol. On voit un joueur qui se tord de douleur et on ne comprend pas. C'est une incompréhension totale. On se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il fait de la comédie ? Est-ce qu'il y a eu une altercation avec un joueur français qu'on n'a pas vu ? On ne sait pas. En fait, on ne comprend pas.
Christophe Bérard, vous suivez cette finale devant une télé à la rédaction du Parisien. Qu'est-ce que vous venez de voir ?
Pendant quelques instants, on voit pareil, pas grand-chose. On voit les Italiens qui attroupés autour de l'arbitre, qui réclament quelque chose et on ne comprend pas. Et puis tout à coup, au bout de quelques instants, il y a un ralenti qui arrive et qu'est-ce qu'on voit ? On voit Zinedine Zidane qui se retourne vers Marco Materazzi et qui lui adresse un très violent coup de tête au niveau de la poitrine. Materazzi s'effondre. Thierry Gilardi, le commentateur, a cette phrase en direct.
Oh non, pas ça ! Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait !
C'est ce que vous dites aussi ?
On se dit tous, on dit qu'est-ce qui se passe ? Mais à cette époque, il n'y a pas d'arbitrage vidéo. Mais la malchance pour les Français voudra qu'il y a un écran de contrôle placé au bord de la pelouse pour les réalisateurs et le quatrième arbitre va voir la scène du coup de tête de Zidane et va aller le dire à l'arbitre central, à la grande fureur de Raymond Domenech, parce qu'à cette époque, on n'a pas le droit de communiquer, il n'y a que l'arbitre qui est censé voir ce qui se passe ou pas et va lui dire il y a eu un coup de tête, évidemment averti de ce qui s'est passé. L'arbitre n'a pas d'autre solution, carton rouge. Zinedine Zidane termine sa carrière de footballeur sur un carton rouge. Et on le voit passer, rentrer au vestiaire, frôler le trophée de la Coupe du Monde qui était exposé sans un regard. Et cette image, Zidane, le maître du monde, celui qui était censé finir sa carrière sur une deuxième Coupe du Monde, frôle la Coupe du Monde et regagne tristement les vestiaires en abandonnant son équipe à 10 contre 11.
Harold Marchetti, quelle est l'ambiance en tribune de presse ?
La stupéfaction. On se dit, on sait que Zidane est quelqu'un qui a le sang chaud parce que ce n'est pas sa première expulsion. Je crois qu'il y en a eu 12 dans sa carrière, mais pas lors d'une finale de Coupe du Monde. Pas à 8 minutes ou à 10 minutes de la fin d'une rencontre. C'est incompréhensible. On se dit, mais qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il a perdu la boule.
Zidane expulsé, la France termine donc cette rencontre à 10 contre 11 et le score en restera là, un partout. C'est la séance de tir au but.
On va perdre. Ça va nous ramener à Séville en 1982. On va perdre parce que David Trezeguet, le deuxième tireur français, son ballon va s'écraser sur la transversale de Buffon.
David ! Oh, c'est là-bas !
Les Italiens font un sans faute. Ils réussissent sur 5 pénalties. Et le dernier pénalty est frappé et marqué par Grosso, qui jouera plus tard à Lyon. Les Français perdent 5-3 cette séance de tir au but. L'Italie est championne du monde. Et la France n'a plus que ses yeux pour pleurer.
C'est dur pour Barthez, pour Wiltord.
Christophe Bérard, dans les heures qui suivent, les supporters français sont abasourdis.
Mais ils cherchent à comprendre l'incompréhensible, parce qu'on voit clairement que Materazzi a dit quelque chose à Zidane, qu'il a quelque part incité à faire marche arrière et à lui donner ce violent coup de tête dans la poitrine, mais on ne comprend pas ce qui a pu se passer dans la tête de Zidane pour littéralement péter les plombs pour manifestement des mots lancés par un défenseur italien. On ne comprend pas ce qui justifie un tel coup de folie.
On le saura quelques jours plus tard.
Quelques jours plus tard, il va accorder un entretien au journaliste Michel Denisot pour s'expliquer. Il le fera du bout des lèvres en laissant entendre que on a attaqué sa famille.
Des insultes qui, ouais, qui touchaient votre, ouais, les femmes de votre famille, ouais, quoi, votre, ouais, mère.
Et il va, ouais, vaguement, sans lâcher des mots de regret, il va simplement dire qu'il s'excuse auprès des enfants pour cette mauvaise image.
Des millions et des millions d'enfants qui ont regardé ça, forcément. Auprès d'eux, je m'en excuse et je le dis haut et fort.
Mais et quelque part, même ça ne suffit pas. On va ensuite savoir que ce qui s'est passé exactement, c'est très simple. Materazzi, le défenseur un peu rugueux qui était chargé du marquage, arrêtait pas de lui tirer le maillot. Et à un moment, pour le chambrer, Zidane dit « Non mais t'inquiète pas, mon maillot, je te le donnerai plus tard ». Et Materazzi, un peu pour le provoquer, lui dit « Non, non, moi je préfère ta sœur ». Et cette phrase, c'est ça qui a déclenché la colère de Zidane. Mais aujourd'hui encore, on ne comprend pas, parce qu'il faut savoir que sur des terrains de football, l'insulte verbale, la provocation, mais c'est monnaie courante. Et qu'un joueur de la dimension de Zidane ait simplement pété les plombs parce qu'on lui a dit « je préfère ta sœur », c'est aujourd'hui encore incompréhensible. Ce qu'a fait Zidane, c'est pas pardonnable, ce n'est pas justifiable. La violence physique par rapport à des mots, eh bien, le monde politique, d'abord par le président Jacques Chirac qui va dire « ah, il a défendu la famille, c'est bien ». Le monde médiatique, beaucoup de gens vont lui pardonner ce geste qui, soyons très francs, s'il avait été commis par un autre joueur que Zidane, mais il n'aurait pas été pardonné ainsi, parce que ce jour-là, il a commis une faute énorme.
Les Français lui ont pardonné aujourd'hui.
Tout le monde a oublié, il y a une forme d'amnésie. On se rappelle de l'image, mais on se rappelle surtout que Zidane a donné 2 buts à l'équipe de France en 98 et qu'on a été champion du monde grâce à lui. Parce qu'on pardonne tout à Zinedine Zidane. Il y a une forme d'absolution qui trimballe avec lui. Voilà, et comme Christophe a expliqué, je pense que tout autre joueur aurait été mais pendu sur la place publique, mais pas Zinedine Zidane.
Zidane, c'était un dieu, et donc on a pris ça comme la colère d'un dieu, mais c'est tout. Mais il n'y a qu'à Zidane qu'on pouvait pardonner ce coup de folie, et on lui a pardonné.
Merci à Christophe Bérard et Harold Marchetti. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Cet épisode a été conçu et préparé par Benjamin Boucriche. Production Stéphane Genest et John Timsit. Réalisation Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire sur votre appli de podcast préféré comme Apple Podcast ou Podcast Addict.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.